c'est ludique. 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est ludique. C'est le retour après 3 jours passés à Vichy pour découvrir plein de nouveautés. Et bien d'ici quelques instants, je vais vous parler de Mojo, un jeu Mojo, on dit Mojo, un jeu de cartes d'Anthony Guilin. Il y aura également Copla qu'on retrouvera pour On y joue, on n'y rejoue pas un an après. Et tout de suite, c'est Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes pour Dans le Rétro. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors ça va depuis Vichy?
Ça va, on récupère, et toi?
C'est ça, on récupère, ouais, c'est... le réveil est
un peu
dur.
Je perds la tête. ouais, carrément.
Alors, je sais même pas de quoi tu vas nous parler, Jonathan, ce matin.
Eh ben, je viens de me décider, alors là je suis pas au magasin, je suis chez moi, donc je regardais un peu ma ludothèque, somme toute assez raisonnable, et puis mes yeux sont posés sur un jeu que je trouve assez exceptionnel,
ouais.
Qui s'appelle, alors mes yeux ont forcément été attirés par cette boîte, je pense pas par hasard, ce jeu s'appelle Solemnia,
oui.
Donc c'est un jeu de Sébastien Dujardin, donc moi un auteur que j'estime beaucoup, hein, je trouve qu'il fait un travail exceptionnel, et édité aussi par Pearl Games, hein, qui est sa maison d'édition, moi je trouve aussi, il fait partie des rares maisons d'édition que je trouve extrêmement qualitative. C'est illustré par Vincent Dutraire, donc je pense mon regard ne s'est pas posé pour rien sur cette boîte, parce que la boîte est magnifique. Alors c'est Vincent Dutraire, c'est un style, on aime ou on n'aime pas, mais là vraiment la direction artistique sur cette boîte, hein, elle est, si vous avez l'occasion de regarder un petit peu sur internet, c'est très très beau, hein. Il y a un choix dans les couleurs, un dégradé, c'est magnifique.
J'ai l'impression d'avoir une aquarelle sur la boîte.
Ouais, c'est vraiment une boîte qui accroche le regard. Solemnia, c'est très efficace. Alors, c'est un jeu, je dirais, relativement grand public. Ça va s'apparenter, pour moi, du Splendor. Comme si Splendor, un jour, avait rencontré les aventuriers du rail et puis ils avaient fait un petit enfant, un jeu de société ensemble.
Ouais.
Et ça aurait donné Solemnia. Donc, dans ce jeu, donc thématique assez originale, on est sur la planète qui se nomme, comme le nom l'indique, Solemnia. C'est une planète dont le cycle jour-nuit est fixe. Donc apparemment, moi j'ai découvert ça grâce à ce jeu, c'est quelque chose qui existerait. Des planètes où il y a un hémisphère sur lequel il fait jour et puis un hémisphère sur lequel il fait nuit et ça ne bouge pas. Et donc nous, on fait partie d'un convoi qui sillonne cette planète pour aller chercher des ressources d'un côté et les livrer de l'autre, et vice-versa. C'est-à-dire que du côté nuit de la planète, on ne va pas retrouver les mêmes ressources que du côté jour. Donc comment ça joue? On a un plateau qui est assez simple, avec des cases avec des ressources et des cases avec des villes.
Ouais.
À mon tour, je vais jouer une carte de ma main, j'en ai 3, que je vais poser sur une case à côté de la navette ou à côté d'une des cartes que j'ai déjà jouées. Donc là, on sent le petit côté un peu planification à la Splendor, parce que je me dis, je joue là pour gagner ce qu'il y a sur la case, mais ça me permettra d'atteindre la case qui est derrière, peut-être à mon prochain tour. Peut-être, parce qu'il y aura un feeling un peu à l'aventure du rail, peut-être qu'un autre joueur va venir m'embêter et venir poser une carte là, je ne pourrai donc plus jouer à cet endroit.
Ouais.
Donc une sensation un petit peu de blocage, qui n'est pas très violente, on va dire, dans la sensation, mais qui permet quand même une interaction. Donc, pourquoi je pose une carte sur une case? Les cartes, elles sont, alors, faut pas se fâcher quand vous ouvrez la boîte, hein, les cartes, elles sont trouées. Elles ont un gros trou au milieu, donc ça, c'est original et rigolo dans le matériel. Ça permet de poser la carte sur la case et de voir dans le trou qu'est-ce que ça fait. Ça indiquera, la plupart du temps, une ressource. Très simple, il y a du bois, du blé, du pied, de la pierre et de l'eau. Et sur ma carte, il y a une valeur. Par exemple, 3. J'ai joué un 3 sur du bois, je gagne 3 bois que je vais venir stocker chez moi. Donc là, petit feeling à la Splendor, parce que je vais cumuler comme ça quelques ressources. Et je pourrais aussi jouer une carte sur une ville. C'est l'autre type de case. Et là, je vais pouvoir remplir des contrats. Par exemple, des fossés, 2 blés et 1 eau pour gagner 3 points de victoire. Donc très efficace, très simple à prendre en main. On est sur des parties assez courtes. Voilà, ça se joue assez rapidement avec un temps de jeu rapide. La grosse originalité du jeu, c'est son plateau. Le plateau est composé de plusieurs bandelettes. Et quand on va jouer des cartes spéciales, donc les cartes de valeur 0, la navette qui est sur le plateau va avancer, notre convoi avance et le plateau va se transformer. On va retirer la dernière bandelette du jeu, là qui sera en l'occurrence côté nuit, on va la retourner côté jour et là, placer devant. Donc ça donnera une sensation de voyage. On va voir ce plateau se déplacer sur la table, qu'on voit avancer,
ouais.
Et ça va avoir une vraie incidence sur le jeu parce que du coup les possibilités ne sont plus les mêmes. On n'a plus les mêmes ressources à disposition. À un moment de la partie, il fera totalement nuit. Donc certaines ressources sont très rares. À un autre moment, il fera totalement jour. Et il va y avoir un aspect tempo aussi. Alors, j'aime bien quand il y a ce genre de feeling. Quand la bandelette est retirée, Du coup, il y a les cartes de joueurs qui s'en vont avec, hein, de cette bandelette, et ça déclenche des effets bonus pour les joueurs. Et c'est très important de faire en sorte que nos effets se déclenchent au moment opportun. Donc de sentir un peu quand les joueurs vont faire avancer le convoi. Je vous en ai dit beaucoup, mais je crois que je vous ai tout dit sur Solenia. À part que c'est un jeu qui est pas seulement le bébé d'Aventurier du Rail et de Splendor, c'est aussi un peu le bébé de Black Angel, donc du même auteur, oui, ouais, avec deux autres co-auteurs dont là je me souviens pas le nom, édité par Pearl Games. Donc c'est juste une mécanique de Black Angel qui est tellement efficace et exceptionnel qu'ils ont décidé, en plus de faire Black Angel, de faire un deuxième jeu juste avec cette mécanique de Black Angel. Ouais.
Sachant que Black Angel est sorti après Solenia.
Ouais, Black Angel est sorti après. Comme d'habitude, c'est du Pearl Game, donc un jeu qui est super léché avec une direction artistique de dingue. Là, par contre, on rentre sur du gros jeu de gestion conséquent, long, qui est une sorte aussi de descendant spirituel de 3, hein, le premier jeu édité par Pearl Games. Et donc, il faut imaginer que ce jeu est très conséquent, parce que Solenia étant juste un petit bout de ce Black Angel.
Malheureusement, j'ai l'impression, Jonathan, qu'on n'aura plus de jeux Pearl Games. Hein.
Ça, c'était la grande tristesse de ces derniers mois. Je pense qu'on aura toujours des jeux de
Sébastien Dujardin, ouais. Oui.
Mais effectivement, moi, je trouve que ça fait partie des rares auteurs qui ont, des rares éditeurs qui ont marqué ma vie de joueur. Je vous permets de citer quelques noms si les gens s'intéressent et qui veulent regarder. Donc voilà, on a eu 3, Tournai, Deus, L'Auberge Sanglante, Ginkopolis, qui sont pour moi tous des jeux exceptionnels.
Merci beaucoup, Jonathan. Une petite actualité, je crois, à Terre de Jeux ce week-end, puisque j'ai parlé d'un jeu d'ici quelques instants qui s'appelle Mojo.
Ouais, tout à fait. Samedi, on a Anthony Guilen qui va venir pour une séance de dédicace à la boutique. Puis voilà, on va sûrement faire jouer les gens à Mojo. Pour nous, c'est une des grandes sorties de l'année. Donc on est là sur un petit jeu de cartes, très grand public, mais qui est super efficace, très drôle, avec plein de prises de risques, un peu de petits coups méchants vers les autres joueurs. Ouais. Le jeu, moi, je le trouve redoutable, et mes collègues sont du même avis.
Eh bien, j'en parle d'ici quelques instants. Merci, Jonathan, et on se retrouve jeudi prochain.
Merci Mathieu, à bientôt.
Salut.
C'est ludique, 9h30, 10h.
Dis papa, c'est quoi avoir le mojo ? Eh bien le mot mojo, sous l'influence de films notamment Austin Powers et par contamination avec l'argot américain, tend à désigner une chance extrême dans tout ce qu'on entreprend. Et de la chance, il va en falloir un petit peu forcément dans ce nouveau jeu de cartes signé Anthony Guilin, édité par The Flying Games. À noter, hein, pour un jeu de cartes avec des chiffres et des couleurs, les magnifiques illustrations signées Christine Alcouf. Mojo, c'est un jeu de cartes composé de chiffres allant de 0 à 12. Alors pour gagner, il faut avoir le moins de points possible. Sachant que la partie s'arrête dès qu'un joueur a 50 points. Mais alors comment on joue à Mojo ? Eh bien déjà on place la carte Mojo du côté 0, cela indique notamment le sens du tour, mais vous allez voir l'intérêt de cette carte un petit peu plus tard. Chaque joueur va recevoir 8 cartes et on va retourner la première de la pioche. A votre tour, vous allez jouer une carte de votre main sur la défausse. Soit vous mettez une carte de valeur plus petite que celle en haut de la défausse, hein, dans ce cas, votre tour s'arrête et c'est au joueur suivant de jouer une carte. La carte sur la défausse est un 4, je mets un 2, mon tour s'arrête. Si la carte est supérieure, c'est un petit peu différent. Vous allez poser votre carte, mais vous allez en piocher une nouvelle. La carte visible sur la défausse est le 4, je mets un 8, je pioche une carte. Dernière option possible, si je pose la même carte que celle présente sur la défausse, eh bien je pose ma carte et je peux rejouer autant que je veux. Hein. Il y a un 4 visible sur la défausse, je joue un 4, un autre 4 et puis un 2. Voilà, maintenant que je viens de liquider la moitié de mon jeu, c'est à ton tour. Mais attention, car à partir du moment où vous n'avez que 3 cartes en main, vous allez devoir les poser face cachée devant vous. C'est un style de compte à rebours, hein. Vous ne jouez plus, mais quand vient votre tour, vous retournez votre carte. Quand vous avez retourné la dernière, la partie s'arrête immédiatement. Vous prenez la carte Mojo et il faut espérer pour vous que vous avez moins de points que les autres joueurs. Car si ce n'est pas le cas, eh bien vous marquez 10 points en plus de votre score. Vous avez 6 points et ce n'est pas le plus petit score, vous marquez donc 16 points. En revanche, si 6 points est le plus petit score, eh bien là vous marquez 0 points. Car vous avez réussi à finir en premier avec le plus petit score, vous êtes donc récompensé car vous avez pris des risques, hein, tout simplement. Mais alors comment on calcule les points ? Vous allez voir, c'est très simple. On ne compte qu'une fois les chiffres. Vous avez en main un 5, 2, 2 et 3, 3. Votre score sera de 10, 5 plus 3 plus 2. Eh bien oui, on ne compte qu'une fois le 2 et qu'une fois le 3. Une fois le score noté, eh bien on enchaîne une nouvelle manche, on distribue 8 nouvelles cartes et c'est parti pour un nouveau tour. Il existe aussi une variante avec 2 défausses que je vous laisserai découvrir. Emojo, c'est forcément un jeu que vous allez sortir avec vos amis, avec votre famille. Vous pouvez en avoir beaucoup d'ailleurs puisqu'on peut y jouer jusqu'à 8. Uno, Skijo, Ilo, Trio, encore un jeu en haut, eh bien on lui souhaite le même succès. C'est Mojo, donc ça vient de sortir chez The Flying Games.
Des jeux, des hits, c'est ludique. C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
On y rejoue pas, et c'est le jeudi avec Copla. Salut Copla.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Comment ça va depuis Vichy?
Eh ben, pour l'instant, tout va bien. On récupère gentiment de la fatigue.
C'est ça. Et tu as quand même préparé ta chronique. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Tout à fait, tout à fait. Donc, écoute, l'année passée, semaine 51, tu nous parlais de, pas grand-chose, justement, puisque tu étais, comme cette année, à la même époque au Festival des Jeux de Vichy.
Exactement, c'est vrai.
Voilà. Donc, d'ailleurs, moi, j'ai attrapé la maladie des salons, donc je ne maîtrise plus tout à fait ma voix.
Oui, j'entends.
Désolée pour les auditeurs et auditrices. Donc, du coup, je suis remontée un petit peu plus loin dans tes archives pour retrouver les titres que tu avais présentés en semaine 51 de l'année d'avant.
Mmh. Ah, de l'année d'avant.
Il y a 2 ans.
Oh là là.
Tout à fait.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc il y a 2 ans, en semaine 51, tu nous parlais de Almadi, Little Factory, Dice Farm, Cerber et Soundmaker.
Oh,
voilà.
Ok.
Alors, donc, 2 ans après, j'ai décidé de vous parler de Cerber. Et Matt, je vois d'ici la goutte de sueur perlée sur ton front puisque tu m'as clairement demandé d'éviter de parler de jeux édités par Ori Games, pour qui donc je travaille. Mais désolé, je prends ici une petite liberté, déjà parce que Cerber est sorti en 2018, fin 2018, donc bien avant mon arrivée dans le monde de l'édition.
Ouais.
Mais surtout parce qu'il s'agit d'une co-édition entre Ori Games et la boîte de jeux.
Oui.
Alors, avant de parler du jeu, qu'est-ce qu'une coédition? Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de coédition? Eh bien, c'est tout simplement 2 éditeurs, plus d'ailleurs, qui s'allient le temps de coéditer un jeu ensemble. Ils vont donc mettre en commun leurs ressources, prendre les décisions conjointement, mais surtout partager les frais et évidemment les bénéfices.
C'est sûr. Ça doit pas être évident quand même de se mettre d'accord sur certaines choses.
Eh bien, finalement, si. C'est simplement de la discussion, mais en principe, les choses se passent plutôt bien. D'ailleurs, en termes de termes, de parts, tout dépendra des contrats, mais en l'occurrence, pour Cerber, il s'agit d'un 50-50, et c'est
d'accord.
Ce qui se passe dans la plupart des cas.
Ok, très bien.
Donc, Cerber, c'est pas la première co-édition du monde du jeu. On pourrait par exemple citer Matago Bombix avec Takenoko.
Ouais.
Synapse Games et Holy Grail Games pour la coédition de L'Empire de César ou plus récemment Space Co et Libellude avec Mysterium Kids.
Exactement, effectivement.
Voilà. Alors, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre chien à 3 têtes, j'ai nommé Cerber. Cerber, donc, c'est un jeu semi-coopératif, et je reviendrai un petit peu plus tard sur ce terme, dans lequel les joueurs et les joueuses incarnent des explorateurs, exploratrices, qui, après avoir sans doute trop farfouillé dans de sombres affaires, se retrouvent à devoir s'échapper des enfers. Mais la tâche est rude, puisque Cerber leur colle au basque. Les explorateurs vont coopérer en jouant des cartes qui les feront avancer en direction de la sortie, avec un système de déplacement du type j'avance d'une case et je peux faire avancer quelqu'un d'autre de 3 cases. Donc évidemment, chacun fera le nécessaire pour être choisi. On aura le droit à des « moi, s'il te plaît, promis, après je te fais avancer aussi ». Donc de la négociation, des plaintes, du chantage et bien sûr de la trahison. Puisqu'à l'arrivée, pas de place pour tout le monde dans la barque. Et votre but est avant tout de survivre, de vous en sortir vivant. Donc s'il faut en laisser un ou deux derrière pour servir de casse-croûte au Big Dog, la France se souviendra de leur sacrifice. Merci, au revoir.
C'est pas très gentil ce jeu finalement. Hein.
Exactement, donc d'où le terme de jeu semi-coopératif. Au début, on est tous copains, mais petit à petit, les choses vont changer, l'instinct de survie prend le relais. Alors ne vous laissez pas faire, hein. c'est pas pour rien que l'expression « trop beau, trop con » a été inventée. Alors, la semi-coopération, vous connaissez peut-être à travers d'autres jeux, notamment l'un d'entre eux très connu, sorti un petit peu plus d'un an avant Cerber. Il s'agit de, alors Matt, si je te dis, les rescapés d'un naufrage sur une île déserte avec une tempête en approche, construisons un radeau si on veut pas tous mourir, tu me réponds?
J'allais dire Titanic, mais tu vois.
Alors, pas loin. Pas loin. Il s'agit de Galerapagos.
Ouais,
exactement. Voilà, donc même procédé de semi-coopération, dans une ambiance un petit peu plus proche de celle de Koh-Lanta. Au début, on doit tous mettre la main à la pâte aller chercher de l'eau fraîche pour tout le monde et du bois pour la construction du radeau. Mais sur ce radeau, il n'y a pas la place pour tout le monde. Hein. Demandez à Leonardo DiCaprio ce qu'il en pense et ne faites pas la même erreur.
Ouais, c'est sûr.
Voilà. Donc bref, qu'est-ce qui va faire la force de Cerbère face à Galerapagos? Et là, c'est que dans Cerbère, si ce dernier finit par vous rattraper et faire de votre explorateur l'équivalent d'un chewing-gum à la viande, vous passerez alors du côté obscur de la force en devenant son allié.
Mm-hmm.
Votre but sera maintenant d'aider Cerbère à bouffer vos ex-camarades. Et donc, c'est qui déjà qui m'a fait reculer d'une case au tour d'avant?
C'est toi qui vas te faire manger.
Exactement. Donc là où Galerapagos, ou encore en élargissant sur un jeu bien plus connu, j'ai nommé les loups-garous de Tiercieux-le, lorsque vous êtes éliminé de la partie, les autres continuent à jouer, pendant que vous, il vous reste plus qu'à aller vous faire cuire des pâtes. Dans Cerbère, on vous donne l'occasion de renverser la balance, vous pouvez encore gagner la partie, et en plus de ça, en vous étant diaboliquement vengé, un véritable kiff pour les personnes rancunières, et non, je ne me sens pas du tout concernée. Donc pour votre information, Cerbère à l'origine, quand il a été imaginé par son auteur Pierre Buty, c'était un jeu avec un grand méchant loup, un univers petit chaperon rouge. Mais vous l'aurez peut-être compris, le thème était jugé trop enfantin pour la mécanique. C'est donc Cerbère qui remplace le loup et qui deviendra également le titre du jeu.
Très bien.
Ce thème, finalement, sachez que c'était une fausse bonne idée, puisque pour l'export du jeu à l'international, il y a beaucoup de pays pour qui l'enfer, c'est un peu touchy. Hein, on n'aime pas trop en parler et encore moins jouer avec. Donc forcément, il a reçu pas mal de refus pour cette simple raison.
Ouais, il me semble qu'il n'a pas eu beaucoup de succès aux États-Unis, alors qu'en France, c'est l'inverse.
Bien sûr, il y a beaucoup de catholiques aux États-Unis qui ne veulent pas entendre parler des enfers. Donc
pas de Cerbère.
Pour cette raison-là. Exactement.
Pas de Cerbère.
Donc pour finir à la question, un an après, enfin du coup 2 ans après en l'occurrence, est-ce qu'on y rejoue ou pas? Eh bien la réponse est oui, Cerbère est devenu une référence du jeu, alors je mets des grosses guillemets, ouvrez les guillemets et fermez vos oreilles, coputatif ou encore coopérapute, dans lequel chaque fourberie peut facilement vous revenir dans les dents. Voilà.
Merci beaucoup, Copla. On se retrouve
avec
jeudi
plaisir.
Prochain. Salut.
Ça marche, on fait comme ça. Au revoir.